Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci de votre fidélité au programme de Studio Tamani. Il est 8h à Bamako et partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres de cette matinale. La mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections alimente les débats au sein de l'opinion publique. Certains partis politiques et organisations de la société civile recommandent d'organiser les élections avec les organes existants. Langues et cultures africaines, socle des humanités africaines, c'est le thème du Forum des humanités africaines qui se tient depuis mardi à Bamako. Près de 70 chercheurs et universitaires participent à la rencontre. Une étude d'évaluation de l'application du cadre réglementaire et législatif régional de l'économie numérique vient d'être menée par l'UEMOA et la CEDEAO. Objectif, prendre en compte les changements intervenus dans l'écosystème numérique. Voilà pour les titres. Le développement dans un instant avec Sekou Gadjigo. Mamadou Ouattara sur la mise en onde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, EIGE, continue de susciter des réactions. Des organisations politiques et civiles estiment que la mise en place de cet organe ne pourra pas se faire dans le délai restant pour la transition. Elles préconisent de renforcer les organes déjà existants pour tenir les futures échéances électorales. Mais pour le ministre de la Refondation de l'État, l'EIGE jouera le rôle de l'organe unique chargé de l'organisation des élections générales au Mali, Imirana Kilumaïga.
Le Parti pour la Renaissance nationale, PARENA, estime que la mise en place de l'EIGE nécessite un référendum pour transférer les prérogatives de la Cour constitutionnelle à cet organe. Alors que pour le Parti du Bélier Blanc, cette consultation populaire est impossible dans le délai imparti, regrette Sidi Touré, un membre du PARENA.
Vu la situation sécuritaire du pays, vu la division actuelle de la classe politique et de la société civile, il serait très très difficile de mettre en place un organe unique indépendant pour organiser les élections. Mais le PARENA, nous ne souhaiterons plus que les élections soient organisées par l'administration territoriale, mais le machin qu'on veut nous proposer, en réalité, va créer plus de problèmes au lieu justement de les résoudre.
Cet avis est partagé par les responsables de la Synergie 22 des organisations de la société civile. Pour Dr Ibrahima Sango, l'opérationnalisation effective de cet organe unique de gestion des élections pourrait prendre au moins 6 mois.
Nous sommes d'accord qu'il y a un organe unique de gestion des élections. Mais aujourd'hui, le défi, c'est qu'il y a 6 mois qui restent pour la transition. En 6 mois, on ne peut pas mettre en place un organe unique de gestion des élections qui soit opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, le défi que le Mali a, c'est quoi? Et la loi électorale n'a pas été relue. La CENI a été dissoute depuis janvier 2021. Donc si on veut mettre aujourd'hui en place une CENI, ça va prendre au moins 1 mois. L'organe unique de gestion des élections, pour qu'il soit pleinement opérationnel, il faut 6 mois.
Mauloud Benkatra, du parti PMDS, Parti malien pour la démocratie sociale, appelle à une prorogation de la transition pour permettre la mise en place effective de l'EIGE.
Quand on va aux élections, on ira avec l'organisation des élections par le ministère de l'administration territoriale parce qu'on n'a plus le temps. C'était aussi un machin pour nous ou de voir concrètement s'il faut également augmenter 2 ou 3 ou 4 mois. C'est que tout le monde est d'accord pour l'EIGE. Par rapport au temps qu'il reste, c'est impossible. Nous avons la chance de nous retrouver aux assises, qu'on tombe d'accord sur quelque chose.
Notons que le Premier ministre a déclaré récemment que les élections prévues en février prochain pourraient être repoussées.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook ou notre compte Twitter. 8h03 à Kai, recrudescence de l'insécurité sur l'axe Kai-Bamako. En l'espace de quelques semaines, 2 attaques ont eu lieu sur ce tronçon. La dernière a été perpétrée mardi dernier et 5 gendarmes y ont perdu la vie. Pour le spécialiste des questions sécuritaires Boubacar Salif Traoré, la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du pays est une stratégie des groupes terroristes. Elle vise à installer la psychose au sein des populations, dit-il. Il conseille aux autorités d'être plus rapides dans le maillage du territoire. Boubacar Salif Traoré, directeur du cabinet Afrique Globe, est joint au téléphone par Adama Modouaïdara.
Déjà depuis un moment, il aurait fallu avoir une planification pour identifier à l'avance les zones susceptibles d'intéresser justement ces groupes d'insurgés, en essayant de voir, dans la mesure du possible, de faire un maillage territorial bien avant ces groupes-là, en redéfinissant la mission de l'armée et en allant de manière plus rapide dans l'accélération de la réforme du secteur de la sécurité afin de placer les militaires aux bons endroits en tenant compte effectivement de cette évolution. Quand on regarde ces attaques-là émettent des signaux en avance et donc il faut aussi développer une approche très dynamique avec les populations qui ont les meilleurs renseignements, parce que le renseignement technologique a vraiment certaines limites.
Sur un tout autre chapitre à présent, comment lutter contre la traite des personnes, la question était au cœur d'un atelier qui a débuté hier à Bamako, initié par l'Organisation internationale pour la migration. Ce séminaire vise également à valider le mécanisme de référencement national pour la protection des victimes de la traite au Mali, un projet réalisé avec le soutien financier de la coopération au développement des Pays-Bas à travers l'initiative Compass. Reportage Maman Baba.
Pour Boubacar Touré du Comité national de lutte contre la traite des personnes, les personnes victimes de traite peuvent être de toutes sortes, qu'elles soient mineures ou majeures.
Notre but, ce n'est pas de lutter par exemple contre la prostitution, mais notre but, c'est de lutter contre des trafiquants qui amènent des jeunes filles pour les mettre dans la prostitution. C'est aussi l'exploitation de la mendicité d'autrui, des soi-disant marabouts qui prennent des enfants et les amènent dans les grands centres au lieu de les apprendre par exemple le Coran. Donc c'est une forme d'exploitation que ce comité doit combattre.
Les participants de leur côté estiment qu'ils attendent beaucoup de cette rencontre. Pour Fatoumata Mariko de l'Association des enfants jeunes travailleurs du Mali, la traite des personnes est un crime odieux qui sévit sous nos pieds.
Je trouve qu'on a beaucoup de partenaires sur la même thématique. Donc s'il y a un atelier pour coordonner un peu tout ce qui se passe et avoir un mécanisme national de référencement, je crois que c'est la bienvenue et ça permet d'améliorer la qualité de nos services en tant qu'acteurs de promotion et de protection des droits des enfants, surtout ceux qui sont en mobilité et souvent qui sont victimes de traite.
Ces séminaires de 2 jours regroupent les acteurs qui interviennent dans les domaines, notamment les forces de sécurité et la justice.
Reportage signé Maman Baba Kunta. Je vous l'annonçais dans les titres. La première édition du Forum des humanités africaines se poursuit à Bamako sous le thème « Langues et cultures africaines, socle des humanités africaines ». Selon les responsables de la Conférence mondiale des humanités, près de 70 chercheurs et universitaires venant d'Afrique et de sa diaspora en Europe, en Amérique et des partenaires échangent depuis 3 jours sur la refondation et la promotion des humanités en Afrique et dans le monde. Il est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec l'UNESCO. Adama Samasikou, président de la Conférence mondiale des humanités, au micro de Aboubakrine Ag Mohamedine Yattara.
L'objectif donc de cette rencontre, c'est d'asseoir la fondation de ce forum qui est une idée qui est née de la Conférence africaine des humanités dans la perspective de préparer l'Afrique à la Conférence mondiale des humanités dont l'objectif premier était d'analyser le rôle des sciences humaines dans le monde aujourd'hui qui est face à des défis énormes. Les humanités, c'est ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales en fait. Toutes les régions de l'Afrique sont représentées ici, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Ce forum est un espace qui va désormais remobiliser les intellectuels africains pour se mettre au travail. C'est-à-dire que nous avons été jusqu'à ici, dans la reproduction de modèles exogènes, nos pays continuent à avoir comme langue officielle de travail, à la fois dans l'administration et dans l'université, dans la justice, la langue héritée de la colonisation. Mais la majorité de nos populations parlent nos langues. Donc comment faire en sorte que nous changions de paradigme ?
Adama Samasikou, président de la Conférence mondiale des humanités, il était interrogé par Aboubakrine Ag Mohamedine Yattara. Autre titre de l'actualité de ce matin, les commissions UEMOA et CEDEAO ont conduit conjointement une étude pour évaluer l'application du cadre réglementaire et législatif régional de l'économie numérique. Pour ce faire, un atelier de consultation a débuté hier à Bamako pour prendre en compte les changements intervenus dans l'écosystème numérique. Il est organisé par l'AMRTP, l'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes. À l'issue de la rencontre, les participants feront des propositions qui seront transmises à l'UEMOA. Le point avec Amsé Toutouré.
Les avancées technologiques se sont traduites par un développement rapide de l'économie numérique qui a transformé en profondeur de nombreux secteurs de la vie économique et des activités sociales des populations. Pour Mamadou Mustapha Barrow, représentant résident au Mali de l'UEMOA, il urge d'aller vite.
Avec l'avènement de l'Internet, il y a beaucoup de choses, les réseaux sociaux. Il faut aller très vite pour quand même faire l'encadrement nécessaire pour que les acteurs et les populations de notre région puissent quand même bénéficier de ces produits numériques.
Pour sa part, l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information, de la communication et des postes AMRTP estime que ces consultations sont d'une importance capitale. Amadou Traoré, conseiller du président de l'AMRTP.
C'est d'avoir la contribution des acteurs nationaux du secteur des TIC au Mali sur le projet de règlement. Ils vont voir est-ce que leurs préoccupations sont prises en compte, est-ce que le texte il est bénéfique pour le Mali.
Les observations et propositions issues de ces consultations seront soumises à des examens et feront l'objet d'un rapport qui sera soumis à l'UEMOA par les autorités maliennes.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité à l'intérieur du pays, une série de formations de 140 jeunes en sécurisme a démarré mardi dernier à Koutchala. L'objectif est de doter les participants des connaissances sur les premiers secours à apporter aux victimes d'accidents et en cas de catastrophe avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. La session qui prend fin le 8 octobre prochain porte essentiellement sur la protection, l'alerte, les hémorragies, les plaies et brûlures, les traumatismes, etc. Elle est initiée et mise en œuvre par la direction régionale de la protection civile de Koutchala. Création d'un espace de sensibilisation pour lutter contre les violences basées sur le genre mardi dernier à Kaï. L'objectif est de lutter contre les violences basées sur le genre dans la région. L'espace est une initiative de l'association des femmes cheminots avec l'appui financier de CECI dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes. Mouriba Cissé a reçu mardi dernier une attestation de reconnaissance pour son courage et son sens élevé du devoir citoyen par l'association Ensemble pour Kita EPK. Selon les initiateurs de cette récompense, M. Cissé a volontairement curé des caniveaux sans rien demander en retour. D'autres hommes et femmes de la localité ont aussi reçu des attestations de reconnaissance pour leur implication dans des activités de développement à Kita. La cérémonie de remise d'attestation s'inscrivait dans le cadre des activités commémoratives du 3e anniversaire de l'association EPK. Et c'est ce qui met fin à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi tout de suite la version Bamanankan. Mais n'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette édition sur notre site studiotamani.org ou en appelant sur Viamo au 37 321. Studio Tamani. Dans les hôpitaux du Mali, 4 patients sur 10 consultés dans les services cardiologiques souffrent des maladies cardiovasculaires. C'est ce qu'affirme Dr Nuhong Wan, cardiologue à la polyclinique américaine Golden Life. Selon lui, les anomalies génétiques et physiques comme l'hypertension, le diabète, l'obésité sont les principales causes des maladies du cœur. Toutefois, il invite les populations à une alimentation saine et des dépistages récurrents. C'est dans ce contexte que la Journée mondiale du cœur est célébrée ce 29 septembre, a été célébrée plus tôt ce 29 septembre 2021. Écoutons Dr Nuhong Wan, cardiologue à la polyclinique américaine Golden Life. Il répond aux questions de Juliette Koulibaly.
Les facteurs de risque qui provoquent des maladies cardiovasculaires se résument à quelques facteurs de risque. L'hérédité, il y a l'âge, il y a aussi le stress psychosocial, il y a les conditions économiques défavorables qui sont les nouveaux facteurs de risque.
Combien de personnes sont atteintes de cette maladie au Mali?
Il est difficile d'avoir une statistique fiable. Il y a seulement quelques statistiques qui nous proviennent des études hospitalières et des structures.
Alors, comment se fait la prise en charge?
Elle se fait par une évaluation, un examen clinique, parce que quand on ne traite pas bien un diabète ou bien une hypertension, on est exposé à des accidents cardiovasculaires qui peuvent comprendre soit des crises cardiaques, infarctus ou bien insuffisance cardiaque, ou bien des accidents vasculaires cérébraux, notamment les caillots de sang qui bouchent les artères ou bien l'hypertension qui fait saigner dans le cerveau.
Est-ce que le traitement est gratuit?
Il n'est pas gratuit. On peut obtenir parfois une réduction des coûts à travers les assurances qu'il faudra éventuellement multiplier, mais c'est sûr que c'est un traitement qui coûte cher.
Quelles sont les difficultés liées à la prise en charge?
Les difficultés liées, c'est d'abord de convaincre et sensibiliser les patients, les populations sur l'existence de ce facteur de risque-là, de ce qu'ils sachent qu'il est nécessaire d'aller se faire dépister. quand on a une hypertension, quand on a un diabète, quand on a une obésité, notamment dans la famille, ou bien qu'on voit un parent qui a fait une complication cardiovasculaire, notamment qui a fait un AVC, qui est paralysé, bien qui a fait une crise cardiaque. Il faut savoir qu'on peut être exposé soi-même. En ce moment, il ne faut pas attendre que la maladie se présente. Il faut de temps en temps faire quelques examens, quelques consultations.
Qu'est-ce qui fait que la plupart des hôpitaux au Mali ici manquent d'équipement?
Ça, c'est une problématique liée à la politique de santé dans nos pays.
Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éviter la maladie du cœur?
C'est d'abord une hygiène de vie, constituée d'une alimentation qu'on peut qualifier d'équilibrée, manger moins gras, manger moins salé et manger moins sucré. Deuxième chose, c'est faire une activité physique régulière. Troisièmement, c'est de ne pas fumer si les patients sont des fumeurs. Boire moins de boissons gazeuses, les sodas et autres. Il y a une notion génétique, c'est-à-dire que même si on prend ces mesures-là, on ne peut pas échapper parce qu'il y a des anomalies qui sont liées à notre gène, à notre constitution.